Bonjour les oreilles et bienvenue dans l'émission Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. Une émission dédiée à toutes ces histoires qu'on raconte pour s'endormir, se réveiller, pour partir et peut-être revenir. Je vous donne une poignée de mots pour qu'ils ne tombent ni de haut ni dans l'oubli, faites-en bon usage. Je suis Caroline et je vous propose de faire la route en ma compagnie pour une petite demi-heure et à toute heure du jour et de la nuit, dimanche et jours fériés compris, en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. Ces jours-ci, je me demandais si on pouvait se sortir seul des situations les plus désespérées. J'ai souvent envisagé la solitude comme un refuge, et plus tard j'ai compris qu'en fait, c'est une armure dans laquelle on s'enferme. Et la pire chose qui puisse arriver, c'est qu'on ne trouve plus la clé pour sortir de cette armure. Faudrait arriver à laisser entrer les personnes qui veulent nous aider. Peut-être qu'ils ne vont pas nous sauver. On ne peut pas aller mieux de toute façon si on n'a pas décidé, mais parfois les amis, c'est comme des petits cailloux blancs semés qui peuvent nous aider à sortir d'une forêt. C'est peut-être un peu naïf comme image, mais moi j'y crois. Et quoi de mieux qu'un conte sur l'amitié pour commencer? Voici une histoire intitulée « Les deux amis de Bagdad ». Dans la ville de Bagdad vivaient deux commerçants liés par une amitié profonde. Depuis tout petit, ils étaient amis. Ils avaient joué ensemble dans les rues du quartier, ils avaient été à l'école ensemble, ils avaient ouvert un commerce chacun la même semaine. Leurs affaires étaient prospères et ils se consultaient pour tout, tout le temps. Un jour, l'un des deux décide d'aller s'établir à Bassora avec sa famille pour y faire prospérer ses affaires. Les deux amis se séparent pour la première fois de leur vie. Chacun mène son négoce du mieux qu'il peut. Alors que le commerçant de Bagdad devient de plus en plus riche, celui de Bassora voit la roue du destin tourner et au bout de quelques années, il n'a plus rien. Il se retrouve avec sa femme et ses enfants dans un dénuement extrême. Ils n'ont bientôt plus de quoi se vêtir, plus de quoi se nourrir. Leur désespoir est immense quand un matin, la femme du commerçant de Bassora dit à son mari « Va voir ton ami à Bagdad. Votre fidélité est légendaire. Va lui demander de l'aide. Il ne refusera pas. » L'homme a sa fierté, certes, mais il n'a plus les moyens de la préserver. Le lendemain, il s'arme de courage et entreprend un voyage qui le mène jusqu'à Bagdad. Il cherche la maison de son ami et frappe à sa porte. C'est le commerçant de Bagdad, en personne, qui ouvre. Quand il voit son ami d'enfance en haillons, sale sur lui et maigre, il lui claque la porte au nez. Le retour à Bassora est terrible. À la misère est venu s'ajouter le chagrin. La douleur de l'amitié déçue est cuisante. L'homme rentre chez lui et dit à sa femme qui l'attend « Loin des yeux, loin du cœur. Ceux qui t'aiment quand tout va bien ne te reconnaissent pas quand tu n'as plus rien. » Ainsi, à Bassora, la vie continue avec son lot de soucis. Une nuit, quand tout Bassora dort, on sonne à la porte de notre homme. Inquiet, il va ouvrir. Devant sa porte, une jeune femme tient à la main un sac qui semble très lourd. Elle lui demande de la laisser entrer et quand elle est chez lui, elle lui dit « Mon mari vient de mourir et il me laisse en héritage de nombreux bijoux de valeur que voici. J'ai besoin d'argent et je ne sais ni à qui ni comment les vendre. Je sais que tu es commerçant, je te les confie et nous partagerons le produit de la vente en deux parts égales. » Le commerçant se met, dès le lendemain matin, en quête d'acheteurs. À la fin de la journée, il a réussi à vendre tous les bijoux à très bon prix. Quand la jeune femme revient le voir, il lui donne sa part et prend la sienne. La somme ainsi obtenue est importante. Elle lui permet d'habiller toute la famille, d'acheter des provisions pour quelques mois et de tenir un petit étal au marché où il vend quelques objets à bas prix. La vie va déjà mieux, même si ce n'est pas encore le paradis. Une semaine plus tard, en pleine nuit, il entend frapper à sa porte. C'est un jeune homme qui se faufile à l'intérieur et qui lui dit « À l'occasion d'un pari, j'ai gagné une cargaison de tapis en soie de Chine. Il y en a plusieurs centaines et je ne sais qu'en faire. Je ne connais rien en commerce. Pourrais-tu te charger de la vente et nous partagerons la somme que tu en obtiendras ?» Le commerçant de Bassora n'en croit pas ses oreilles. C'est la chance qui frappe une deuxième fois à sa porte. En une semaine, il réussit à écouler toute la marchandise. Il partage les bénéfices avec le jeune homme et se retrouve avec une belle somme d'argent. Il fait réparer sa maison, organise un festin pour sa famille et réussit même à acheter une échoppe dans le quartier commerçant de la ville. Il n'a pas grand-chose à vendre, mais il est à l'abri des soucis du quotidien. Passe 3 semaines quand, au lever du jour, il entend frapper à sa porte. Un jeune homme entre chez lui et lui dit « Mon père vient de mourir. Il m'a laissé en héritage un chargement de soie et de tapisserie. Je ne connais rien au commerce. Pourrais-tu te charger de la vente et nous partagerons les bénéfices ?» L'homme de Bassora accepte. Il trouve acheteur et vend à très bon prix. Les bénéfices sont considérables. Aussi, après avoir fait le partage avec le jeune homme, il se retrouve avec une fortune conséquente. Pour sa famille, c'est la belle vie. Il réussit à acheter diverses marchandises qu'il expose dans sa boutique et ses affaires deviennent aussi prospères qu'avant. Un jour, il va trouver sa femme et lui dit « Maintenant que nous avons retrouvé la fortune et la belle vie, je vais aller à Bagdad revoir mon ami d'enfance et je lui dirai le bien que je pense de lui. » L'homme se met en route. Il arrive devant la maison de son ami et frappe à la porte. Quand celui-ci ouvre, le commerçant de Bassora dit « Ne te fatigue pas à me claquer la porte au nez. Je suis fortuné et en bonne santé, aussi je ne vais rien te demander. Je ne suis pas venu en ami, je viens mettre un point final à l'amitié qui nous a liés tant d'années. » « D'accord, » répond le commerçant de Bagdad. « Mais avant de clore notre histoire, je te prie de bien vouloir rentrer chez moi une dernière fois. Je voudrais te montrer quelque chose. Après, tu pourras t'en aller. » L'homme de Bassora entre dans la salle attenante. 3 jeunes gens y sont installés autour d'un thé. Quand il lève la tête, il reconnaît les 2 jeunes gens et la jeune fille qui avait un jour frappé à sa porte pour lui demander de vendre leurs biens. Saisi, il regarde son ami qui lui dit « Quand tu es venu chez moi la première fois et que je t'ai vu pauvre comme un vagabond, la douleur m'a envahi. Mais mon cœur s'est brisé quand je t'ai fermé la porte au nez. Je ne voulais pas te donner l'aumône comme à un mendiant qui me fait pitié. Je t'ai envoyé mes enfants avec de la marchandise à vendre et si tu as refait fortune aujourd'hui, c'est grâce à ton talent. Tu ne me dois rien. L'amitié est intacte. » On raconte que, depuis ce jour-là, leur amitié l'ont cultivée longtemps. Longtemps, et seule la mort a réussi à les séparer. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce conte. Premièrement, j'aime comme ces 2 hommes restent humbles, chacun à leur manière. Lorsqu'après la première vente, les choses vont un peu mieux pour le commerçant de Bassora, et lorsqu'il est sollicité une 2e fois pour vendre de la marchandise, le texte nous dit « Le commerçant de Bassora n'en croit pas ses oreilles, c'est la chance » qui frappe une 2e fois à sa porte. Le commerçant ne se dit pas que c'est dû au succès de sa première vente, à ses talents de vendeur. Non, il se dit que c'est la chance. À aucun moment, il ne se dit que si sa situation s'est arrangée, c'est grâce à lui. Et le commerçant de Bagdad, au lieu de dire que c'est grâce à lui que son ami a retrouvé santé et fortune, il lui dit, et je cite le texte, « Si tu as refait fortune aujourd'hui, c'est grâce à ton talent, tu ne me dois rien. » Il ne se met pas en avant, ne joue pas les sauveurs et ne cherche pas à retirer de la gloire de tout ça. Ce qui est touchant en fait dans cette histoire, c'est qu'on a affaire à 2 hommes sensibles. Tous 2 évoquent leur peine et leur chagrin. L'un, quand il pense être rejeté par son ami, et le texte nous dit, le retour à Bassora est terrible. À la misère est venu s'ajouter le chagrin, la douleur de l'amitié déçue est cuisante. Et l'ami de Bagdad dit « Quand tu es venu chez moi la première fois, la douleur m'a envahi. Mon cœur s'est brisé quand je t'ai fermé la porte au nez. » Si c'est pas des hommes sensibles, ça. C'est ainsi qu'on comprend l'intensité de leur amitié et toute l'affection et le respect qui l'entoure. Et c'est bien de respect dont il est question dans ce conte. L'amitié de ces 2 hommes est pleine de dignité. Le vendeur de Bassora reste humble, modeste quand les choses commencent à aller mieux. Il ne dépense pas tout son argent sans compter, il ne s'arrête pas de travailler. Au contraire, il essaie de rétablir la situation en étant prudent et il se donne les moyens de continuer sur cette lancée. Il poursuit ses efforts et le texte nous dit qu'il s'achète une petite échoppe dans le quartier commerçant de la ville. Il n'a pas grand-chose à y vendre, mais il est à l'abri des soucis du quotidien. Et quand la 2e vente a elle aussi du succès, il a la même attitude. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas de travailler. Au contraire, il poursuit ses efforts et continue d'essayer de faire tourner sa boutique. Idem à la suite de la troisième vente. Quant à l'ami de Baghdad, au lieu d'ouvrir la porte à son ami, de l'aider en l'écoutant parler de sa situation, en lui tendant un mouchoir quand il pleure, en lui tapotant sur l'épaule ou en lui disant « Courage mon vieux, un jour ça ira mieux », eh bien il a préféré agir et aider son ami concrètement. Et la meilleure chose qu'il a trouvé à faire pour l'aider, c'est de lui rendre sa dignité en lui rappelant ses qualités de commerçant, en lui montrant qu'il a, à l'intérieur de lui-même, toutes les ressources nécessaires pour se sortir de cette situation. La solution à son désespoir, elle est à l'intérieur de lui. C'est grâce à lui-même qu'il se sortira de ce mauvais pas. Il suffit juste de le lui montrer ou de le lui rappeler. Et c'est une très belle manière d'aider quelqu'un à s'en sortir. Des fois, on a juste besoin d'être écouté, car les autres ne peuvent rien pour nous. Et puis des fois, on a besoin d'être aidé. Ce qu'il manquait au vendeur de Bassora pour se sortir de cette situation, c'est la confiance en soi, tout simplement. Je vous propose une petite pause musicale en compagnie de René Aubry et de son morceau Salento. Thank you. êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8, vous êtes toujours à l'écoute de Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. Il y a parfois d'autres manières de se sortir d'une situation désespérée. Il peut y avoir l'art et l'imagination. Voici un conte qui s'intitule « Le rêve ». Un groupe d'enfants joue au ballon dans un immense terrain vague, juste à la sortie de la ville. Tout à coup, le ballon s'échappe des mains d'un enfant et roule, roule encore et disparaît. Aussitôt, les enfants courent aux quatre coins pour chercher le ballon. En vain. Ils s'apprêtent à quitter le terrain vague lorsque l'un d'entre eux pousse un cri. Il vient de découvrir, caché par des broussailles, un trou très large et très profond. Un trou si large et si profond que les enfants restent tous plantés là autour, incapables d'en détacher les yeux. Le soir, de retour chez eux, les enfants racontent à leurs parents ce qui s'est passé. Les adultes se réunissent et décident d'organiser une expédition dans le terrain vague. Passés les broussailles, les grands comme les petits restent plantés là, au bord du trou si large et si profond. Aucun n'ose descendre au fond pour y chercher le ballon perdu. Le lendemain matin, on dresse des palissades tout autour du terrain vague avec un panneau « Interdiction de jouer ». Cependant, parmi les parents du quartier, il y a un homme qui s'appelle Monsieur Tsatsa. Il est peintre et il est nouveau dans le quartier. Comme les autres, il a découvert le trou, mais il a terriblement envie de descendre au fond pour le voir de plus près. Aussi, sans rien dire à personne, une nuit, il part avec une corde sur l'épaule. Il escalade les palissades et, arrivé au bord du trou, il installe une poulie pour accrocher sa corde. Le peintre commence à descendre dans la nuit du trou. Il descend des heures durant, accroché à la corde, ne sentant ni le froid ni le vent. Il descend toujours plus loin, sans rien voir autour de lui. Lorsqu'enfin ses pieds touchent le sol, il lâche la corde et ouvre les yeux. Quelle n'est pas sa surprise de découvrir, creusée dans la roche, une ville souterraine, une ville toute blanche, une ville immense, une ville étrangement déserte. Il n'y a là que le gravat, décombre. Cette ville cachée serait-elle en chantier ou au contraire dévastée, abandonnée dans les entrailles de la terre? Personne dans les rues, rien qu'un silence lourd. Monsieur Tsatsa marche dans les rues désertes, il appelle, cherchant des traces de vie, mais personne. Ses détours le conduisent enfin devant une maison encore debout. Une femme est là, qui pleure, la tête enfouie dans ses genoux comme un tout petit enfant. La femme est surprise. Monsieur Tsatsa lui raconte le terrain vague, les enfants, le ballon, le trou, les palissades, la corde. Il veut savoir ce qui s'est passé dans cette ville étrangement silencieuse. La femme hésite et finit par dire « C'est arrivé il y a 2 jours. Venu des galeries souterraines, des chats sauvages, énormes, hideux, monstrueux ont attaqué les habitants de la ville par surprise. Leurs hurlements ont cassé les pierres et anéanti la ville entière. J'ai réussi à me cacher dans un coffre, mais je suis sûre qu'ils vont revenir. » Le peintre voit dans un coin des feuilles de papier, de l'encre à des pinceaux. Il s'en empare et sans un mot, il se met à dessiner et à peindre des chats de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs sur chaque feuille de papier. Quand il ne reste plus une goutte d'encre, le peintre se cache dans le coffre avec la femme et bien à l'abri, ils attendent. La nuit venue, d'horribles miaulements se font entendre et les monstres gras, griffus, velus sont de retour. Ils sont des centaines et des centaines. C'est alors que, sortant des feuilles de papier, les chats dessinés, les chats peints de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs se jettent sur eux. La bataille fait rage. Pattes croisées, dents contre griffes, couleurs contre grisailles, hurlements contre froissement de feuilles. Le spectacle est d'une violence inouïe. Finalement, ce sont les chats de papier qui ont le dessus. Les autres, têtes baissées, griffes rentrées, regagnent leur galerie souterraine dans les entrailles de la terre. Tranquillement, les vainqueurs, chats de toutes les formes, de toutes les tailles et de toutes les couleurs, retournent chacun dans sa feuille et s'efface lentement. Au bout d'une heure, il ne reste plus que des feuilles blanches et un grand silence. L'homme et la femme sont restés bien à l'abri dans le coffre. En entendant le grand silence de la ville blanche, Monsieur Tsatsa soulève le couvercle et sort le premier, puis la femme, qui pleure de joie. « Tu es un héros, et grâce à ton art, tu as sauvé ma ville. » Oui, je sais ce que vous allez me dire, ce conte est pour le moins surprenant. On est dans une sorte d'univers parallèle avec cette ville blanche et silencieuse, souterraine. C'est comme si le fait d'être sous terre permettait que des choses fantastiques puissent avoir lieu. Vous remarquez que ce trou béant qui mène à la ville souterraine est découvert par les enfants, mais une fois que le peintre Tsatsa est entré à l'intérieur, on quitte le monde des enfants et leurs jeux de ballons pour entrer dans un univers sombre, lourd et pesant. Un monde d'adultes, avec des angoisses insurmontables. Je vous laisserai interpréter les chats monstrueux, hideux et griffus comme vous voulez. Ils peuvent symboliser des tonnes de choses et chacun y verra ses propres angoisses. Moi, ce qui m'interpelle plutôt dans ce conte, c'est le pouvoir impressionnant qui est accordé à l'imagination. Des chats dessinés sur des feuilles de papier peuvent combattre des vrais chats qui sèment la terreur. Non mais c'est incroyable quand même. On dirait que l'art, et la peinture ici en l'occurrence, rend tout possible. Que d'un coup, ce qui a été imaginé est assez puissant pour combattre des peurs réelles. Alors bien sûr, je ne pense pas que le conte nous dise qu'il suffit de dessiner des fleurs sur un bout de papier pour attendrir les huissiers qui viennent frapper à votre porte pour prendre vos meubles, hein, c'est peut-être pas l'intention. Mais tout de même, c'est pas anodin que l'artiste choisisse le papier pour combattre la réalité. Il propose un moyen d'expression. Il essaie de se sortir de cette situation par l'art. Il couche sur le papier ses espoirs. Il extériorise. Il tente quelque chose à ses risques et périls. Et en faisant ça, bien sûr, il s'expose, car il ne sait pas à l'avance s'il va réussir à gagner le combat contre les chats. Alors que la femme qui vit dans cette ville, qui est terrorisée par les chats, et qui est persuadée qu'ils vont revenir, eh bien, elle ne tente rien pour s'échapper, rien pour les faire fuir, et n'essaie même pas de les affronter. Elle est complètement paralysée par la peur, et elle se considère comme battue d'avance. Bien sûr, en n'essayant pas de combattre ces chats monstrueux, elle ne prend pas le risque de perdre, elle ne prend pas le risque d'essuyer un échec. Et parfois, on préfère rien tenter de peur de se voir échouer. On ne sait pas si le peintre est courageux ou inconscient. Et des fois, on se rend compte que dans des moments d'inconscience, on réalise des choses extrêmement courageuses que si on avait pris le temps 2 secondes de réfléchir à la situation, on n'aurait jamais fait ça tant ça paraît insensé. Et le peintre va tenter le tout pour le tout. Il va vers ce qu'il connaît le mieux, vers son domaine de prédilection, vers là où se trouve sa force, c'est-à-dire la peinture. Et est-ce de la chance ou pas, le fait est que ça va marcher. Il va réussir à faire fuir les chats monstrueux et à sauver cette ville souterraine. Dans ce conte, comme dans le précédent que je vous ai raconté aujourd'hui, on découvre que la solution à une situation désespérée se trouve à l'intérieur du personnage. C'est sa confiance en lui qui va le sauver. Dans le premier conte, l'ami de Basora doit juste se souvenir de ses qualités de commerçant, qu'il est un bon professionnel, qu'il est un bon vendeur. Et dans le deuxième conte, le peintre n'a qu'à puiser sa force dans son art. Alors voilà, aujourd'hui je vous ai raconté 2 histoires qui parlent de courage, d'entraide et de confiance en soi. Et je ne sais pas quoi vous dire. Parfois, pour se sortir d'un mauvais pas, on a besoin des autres, de nos amis. Mais parfois, ils peuvent rien pour nous, et nous seuls pouvons nous sauver de nous-mêmes. Et puis parfois, comme l'a dit Germaine Tillion, il y a des jours où il fait tout simplement trop beau pour s'arrêter là.
C'était l'émission Compte-Gouttes. Je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine émission sur Radio Campus Grenoble 90.8.